Cause à effet, le magazine de l'environnement.
En cette fin de semaine de la mode, rythmée par les défilés de haute couture et dans le cadre de notre rendez-vous mensuel hashtag Sauvez le présent qui réunit, je le rappelle, France Culture, Le Parisien, Combini News et Ouzbek Erika, c'est l'univers de la mode que nous avons choisi de scruter. Un monde dont le bilan écologique est sans appel. En effet, la mode est responsable de 10% des émissions de CO2 dans le monde, de 20% des rejets d'eau usée et de 22,5% de l'utilisation de pesticides. Un impact social et environnemental non négligeable. Et selon les projections d'analystes, la génération des millennials n'entend pas cautionner cette dégradation de la planète. Les acteurs du monde de la mode l'ont bien analysé, y compris dans le secteur du luxe qui fait sa révolution verte, avec le soutien, on l'aura remarqué, d'ambassadeurs emblématiques comme Stella McCartney ou Vivienne Westwood. Des jeunes créateurs aux maisons phares, comment le monde de la mode fait-il sa révolution? Quels en sont les mobiles et les motivations? Réponse aujourd'hui avec Damien Pellet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur développement durable des Galeries Lafayette et du BHV Marais et vous êtes impliqué dans le mouvement Go for Good. À vos côtés, Clément Molavé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la marque Opal, une marque qui conçoit des vêtements réalisés à partir de matières recyclées. Et en duplex de nos studios de Lille, Majdouline Zbahi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, auteur du livre « Une mode éthique est-elle possible ?», un livre paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Et puis je précise que vous êtes aussi organisatrice pour Norcrea des Fashion Green Days. Et en seconde partie d'émission dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste Audrey Garic qui reviendra sur une info de la semaine. En l'occurrence, elle reviendra sur la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone. Et enfin, l'escale verte nous plongera dans l'univers des loups, l'occasion de revenir sur la question controversée de la politique de réintroduction de ces espèces animales. Et nous serons avec Jean-Michel Bertrand, auteur, scénariste et réalisateur du film documentaire « Marche avec les loups », un film actuellement sur grand écran. Et il est également co-auteur du livre du même nom paru chez Salamandre. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement sur France Culture avec présents dans le studio aujourd'hui les élèves de la classe de seconde 1 du lycée international La Tour à Paris. Bonjour à tous et une émission possible aussi grâce à l'équipe qui m'entoure, Anaï Morales et la réalisatrice Alexandra Malka. Sans oublier Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang et avec à la technique aujourd'hui Swad Boukorsa.
Au cœur de Paris, l'avenue Montaigne, le temple du luxe.
C'est bon, c'est élégant. En fait, me, I like it. Moi, j'aime bien.
C'est la mode, la tendance, ça tient longtemps, de la super qualité.
La mode a traversé les époques, incarnée par de grands noms français comme Coco Chanel ou encore Yves Saint Laurent. Petit à petit, nos PME sont devenues multinationales, mais sans pour autant renier leurs traditions. Hermès, Chanel, Kering, LVMH, tout appartiennent à de grandes familles.
C'est un petit peu le gardien du temple. La famille, c'est celle qui fait en sorte que la marque ne se dénature pas, qu'elle garde son ADN, qu'elle garde son histoire, qu'elle garde ses codes. Et quand vous regardez les marques françaises de luxe, elles sont extrêmement codées. Elles sont entrées dans des codifications très fortes avec une rigueur dans la gestion de la marque qu'aucune marque mondiale n'a.
Les Français ont aussi compris avant les autres le potentiel de nouveaux marchés, comme celui de l'Asie. Des produits encore fabriqués en France, le luxe, c'est 150 000 emplois, une expérience et un savoir-faire que le monde nous envie. Mais dans le secteur, la concurrence est permanente et les défis nombreux pour espérer rester numéro un.
Ça ne se fera pas sans effort. Il faut d'un côté continuer à maintenir cette tradition de créativité, d'excellence dans la production. Sans ça, il n'y a pas de luxe. Mais il faut aussi s'adapter aux modes de consommation qui sont en train de changer.
L'enjeu, réussir à séduire les jeunes et s'adapter à la nouvelle économie d'Internet.
Eh oui, s'adapter. C'était un reportage diffusé sur France 3 le 23 juin 2018. En un an et demi, plus que jamais, il faut encore plus s'adapter. Nous allons en parler avec vous aujourd'hui, s'adapter pour ce secteur qui fait face à une évolution des achats depuis quelques temps et à une prise de conscience environnementale chez sa clientèle. Peut-être, Majdouline Zbahi, peut-on avec vous démarrer sur le point qui fait mal? C'est le secteur le plus polluant après celui du pétrole.
Oui, on sait que
dans toute la chaîne de fabrication et même après dans l'usage des vêtements, on émet des polluants, on émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien, le transport maritime, on consomme énormément d'eau d'irrigation. On émet aussi pendant la phase d'usage des vêtements, il y a les fibres synthétiques sont devenues très importantes dans le secteur et quand on lave les vêtements, il y a des fibres microplastiques qui sont émises dans les océans et ça représente un volume très important. On peut comme ça énumérer énormément d'impact. En fait, c'est vraiment toute la chaîne de fabrication et l'utilisation des vêtements qui créent ces pollutions. Et puis, comme il y a toute une partie des vêtements qui sont gaspillés, soit parce qu'ils ne sont pas achetés, soit parce que nous ne les portons pas et qu'ils terminent leur vie dans la poubelle, eh bien, c'est un grand gaspillage puisque toutes ces ressources naturelles, toutes ces ressources et savoir-faire ont été utilisées pour rien.
Alors, c'est vrai que les chiffres ont de quoi nous interpeller. 93 milliards de mètres cubes d'eau sont utilisés chaque année par l'industrie textile. 33% des microplastiques rejetés dans les océans, vous en parliez à l'instant, Majdounis Bahi. La production textile aurait une empreinte carbone de 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Finalement, qu'est-ce qui a pu être un déclencheur dans le monde de la mode? Est-ce que la catastrophe aussi du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh en 2013, avec 1127 morts, a joué un rôle peut-être de déclencheur, de prise de conscience, un déclic qui a pu faire aussi bouger les lignes dans le monde de la mode?
Alors on a effectivement déjà tout un mouvement qui s'est créé, qui s'appelle Fashion Revolution, qui est un mouvement mondial qui vise à sensibiliser les consommateurs sur la façon dont sont fabriqués les vêtements. On a également toute une génération de jeunes créateurs qui se sont engagés, qui jouent un peu un rôle de relais d'opinion, notamment sont très actifs sur les réseaux sociaux et parlent énormément de ces sujets. Du côté des consommateurs, je dirais qu'il y a peut-être une partie des consommateurs qui ont eu vent et qui sont intéressés à ces sujets à cause de la catastrophe du Rana Plaza, mais il y a aussi une évolution plus profonde, c'est-à-dire qu'il y a une saturation du marché avec la décote permanente des vêtements, avec ce système où finalement on ne sait plus quelle est la valeur d'un vêtement, on a l'impression vraiment que c'est l'overdose, nos placards débordent. Je pense que tout ceci va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une expérience des consommateurs qui fait qu'à un moment il y a une évolution dans leur pratique de consommation, parce que finalement, ils se rendent compte que la situation et la valeur des vêtements n'est plus ce qu'elle pouvait être à leurs yeux.
Damien Pellet, quel a été le phénomène déclencheur finalement pour vous? Enfin pour vous, je rappelle que vous êtes directeur développement durable des Galeries Lafayette et du BHV Marais. Et avec, effectivement, depuis une dizaine d'années, on peut dire, une autre voie empruntée.
Oui, effectivement, je pense que le Rana Plaza a joué un rôle. Moi, l'accélération, vraiment, elle est manifeste. Elle, c'est assez récent pour moi, c'est depuis 2-3 ans. Que vraiment, il devient très difficile pour une marque, quelle que soit sa taille, de ne pas s'engager sur ces sujets-là. C'est difficile de trouver un événement en particulier, en fait, qui explique ça. Je pense qu'il y a eu quelques marques leaders d'opinion qui ont ouvert la voie, qui ont montré que c'était pas réservé à certaines marques extrêmement spécialisées dans ces questions-là. Et je pense qu'aussi, les consommateurs, ça fait déjà pas mal d'années qu'ils s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mangent. Ils s'intéressent aussi de plus en plus à la beauté, à ce qu'ils se mettent sur la peau, et finalement arriver à la mode, pour moi, était la suite logique, en fait. C'était le bien de consommation courante qui devait logiquement, lui aussi, tomber selon des critères de développement durable, en fait.
Et donc, à partir de là, un grand groupe comme le vôtre se positionne comment? On décide de tout révolutionner, de bannir certaines marques dans le magasin?
Nous, ça a été un vrai débat. Est-ce qu'il fallait bannir ou est-ce qu'il fallait donner envie? Et en fait, on a plutôt pris cette option-là. Nous, on est parti du constat tout simplement qu'il se passait des choses et on a un poste d'observateur assez unique. C'est pour ça que je dis souvent que j'adore mon métier parce que on parle à la fois à Opal et à Louis Vuitton. C'est extrêmement intéressant. Donc, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, mais finalement, en dehors de certains cercles, de certains canaux de distribution, c'est quand même assez difficile pour le consommateur lambda d'identifier des produits de mode responsable. Donc, tout simplement, on s'est dit qu'on allait, nous, faciliter cette identification en magasin en créant un label. Finalement, l'idée est assez simple. On s'est dit, c'est extrêmement simple quand on va dans un supermarché à l'heure actuelle pour identifier des produits locaux, bio, commerce équitable. Faisons la même chose dans la mode. Aidons le consommateur à faire le tri entre les labels sérieux et les initiatives sérieuses de celles qui ne le sont pas. Et mettons cela en lumière pour donner envie aux marques d'aller plus loin, pour montrer aux consommateurs qu'en fait, il y a déjà des choses qui existent et que si jamais ils ont envie que les choses aillent plus loin, plus vite, c'est aussi en se tournant vers ces produits-là qu'elles envoient un message aux marques. Donc ça a vraiment été la démarche, créer une émulation aussi entre les marques. On n'a pas voulu décerner des bonnes ou des mauvaises notes, mais les marques chez nous sont toutes alignées les unes à côté des autres. Et il y a celles qui ont des produits Go for Good, qui sont fiers de les avoir, et celles qui ne l'ont pas. Et généralement, celles qui ne l'ont pas, la saison suivante, elles en ont, parce que elles ont remonté à leur siège le fait que voilà, un grand magasin s'intéresse à ça, que ils sont mieux mis en avant. Et donc, on pense vraiment qu'on, et d'ailleurs, on l'a constaté, hein, qu'on a joué un rôle d'émulation positive. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire à travers la plateforme de marque, en fait, que constitue le grand magasin.
Alors, il faut aussi préciser que, selon des études, hein, par exemple, l'Observatoire économique de l'Institut de la mode, il y aurait des symptômes de déconsommation inquiétants pour ce secteur commercial et qui reposerait en partie sur les questions éthiques. Donc on peut imaginer que, bah oui, c'est aussi un marché qui, plutôt que de le laisser s'effondrer, autant emprunter les voies peut-être tracées par la clientèle.
Non, mais tout à fait. C'est aussi, je pense, également un facteur d'explication. C'est que, bon, bien sûr, le secteur du luxe n'est pas le secteur qui souffre le plus, clairement, mais tout un secteur, je dirais moyen de gamme, souffre. Et c'est aussi quand on est au pied du mur qu'on est aussi appelé à se réinventer et à s'engager dans ce genre de démarche. Mais clairement, vous avez raison, la perte de valeur, elle est de 15% en France en 10 ans.
Clément Molavé, donc avec votre compère, on peut dire, hein, Mathieu Quacko, vous avez lancé l'aventure de Opal en 2016. Concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce concept-là? Je rappelle que vous êtes donc à la tête de cette entreprise Opal qui propose des vêtements, on peut dire, du futur. Donc conçu comment?
Opal, on l'a lancé en 2016. Ça venait d'un constat donc que l'industrie de la mode pollue énormément. Avec Mathieu, on avait une grande sensibilité environnementale, on avait envie d'entreprendre. Et du coup, en mixant un petit peu les deux, ça a donné une marque de vêtements qui se voulait la plus clean possible. Donc pour être la plus clean possible, on a étudié toute la chaîne d'approvisionnement d'un vêtement. Et à chaque étape, en fait, on sélectionne les alternatives les plus saines possibles, les plus durables possibles. Et ça passe aussi par cette volonté de croissance. Et vous disiez tout à l'heure, il y a un signe de décroissance qui est inquiétant, mais en fait pour nous il n'est pas inquiétant du tout, puisqu'en fait c'est une prise de conscience. Et quand avec Opal on s'approche du moment final, donc l'achat du consommateur, en fait on essaye, notre obsession c'est de répondre à un besoin. Donc on préfère ne pas produire un vêtement qui ne servira à rien, qui finira au fond d'un placard, qui aura été produit pour rien. On préfère du coup travailler avec nos clients pour s'assurer que eux ont un réel besoin, et nous, de notre côté, notre métier, c'est de répondre à ce besoin-là. Donc oui, on fait des vêtements recyclés, oui, on fabrique en France, mais notre grosse différence, c'est qu'on ne va pas produire des vêtements et on va tout faire pour les vendre, c'est qu'on va demander aux clients ce dont ils ont besoin, puis on va produire les vêtements. Donc on fonctionne beaucoup en précommande, en co-création avec les clients.
Alors, en précisant donc que ces vêtements sont fabriqués à partir de chutes de coton bio, de bouteilles en plastique, et on peut préciser aussi, puisqu'on a donné des chiffres en début d'émission, un pull classique en coton, hein, sans être donc éco-responsable, nécessite, vous me dites si je me trompe, 2700 litres d'eau.
Ça, c'est pour un t-shirt.
320 grammes d'engrais chimiques et 14 grammes de pesticides, c'est ce que j'ai relevé dans des études. Ouais. Et un t-shirt du futur, ce serait seulement 50 litres d'eau, c'est ça?
En fait, oui, les calculs, ils commencent à partir du moment où on récupère la matière qui va être recyclée. Donc, on commence à calculer ces litres d'eau que pour le lavage de ces fibres. Puis, en fait, ensuite, on refait un fil, on refait un tissu et on refait un vêtement dedans. Donc, c'est sûr qu'entre une matière recyclée déjà disponible et un coton vierge qu'on a besoin d'arroser, d'irriguer, puis de transformer, ben, l'impact environnemental, il est beaucoup plus faible. Il n'empêche que même un vêtement recyclé qui ne servira à rien, il vaut mieux de ne pas le fabriquer plutôt que de le fabriquer pour rien.
Ça, c'est sûr. En tout cas, vous travaillez avec les points relais.
On a bossé avec les points relais, oui, pour transformer une partie.
Pour récupérer la matière première, en fait.
Voilà, c'est une des matières qu'on peut récupérer, mais sinon, c'est auprès d'industriels. Donc, des chutes de production, ça va être auprès d'ateliers qui, quand ils découpent dans les tissus, en fait, on n'arrive jamais à optimiser à 100% le tissu, parce qu'on ne porte pas que des vêtements carrés. Donc, il y a toujours des petites chutes qui tombent par terre. Et ça, plutôt que ça finisse à la poubelle, donc enterré sous terre ou brûlé, ça on peut le récupérer, le broyer, le ramener à l'état de fibre et refaire un vêtement.
Et donc vous travaillez aussi avec des entreprises de transformation en France, des ateliers de confection en France?
Ouais, essentiellement. Là on est à 90% en France, 10% au Portugal pour des maillots de bain, des produits un peu plus techniques.
Et vous regardez vers d'autres pays ou pas?
Enfin, en ce moment, au tout départ, avec Opal, on travaillait en Inde, parce qu'en fait, je travaillais en Inde. Donc, on a lancé Opal avec des partenaires indiens. Et en fait, comme on vendait en France, puisqu'on a une communauté française, on trouvait ça un petit peu dommage de produire des vêtements recyclés en Inde et de les vendre en France. Donc, on s'est dit, on va trouver des partenaires français pour vendre en France, pour que le centre de consommation soit le plus près du centre de production. Donc, on a averti nos partenaires indiens qu'on allait changer. Ils étaient certes un petit peu tristes, mais on leur a dit, pas de problème, le jour où on vendra en Inde, on produira en Inde. Et c'est peut-être dans le développement futur de Opale, on essaie de garder cette cohérence en se disant on produit près du lieu où c'est consommé.
En sachant que l'Inde n'est pas un pays très vertueux sur ce plan-là, sur le plan de la production textile, avec beaucoup de rejets de polluants et de colorants dans les fleuves aujourd'hui.
En Inde, ils sont plus d'un milliard, donc il faut comparer ce qui est comparable. Il y a des acteurs en Inde qui font les choses très 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 bien, comme il y en a qui font les choses très 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 mal. On a l'habitude de parler des acteurs qui font les choses très 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 mal, mais quand on a lancé Opale en Inde, on travaillait avec des acteurs qui faisaient les choses très bien, et là-bas, vu qu'ils drainent une grosse partie du marché, en fait, ils sont capables d'avoir des machines beaucoup plus économes en eau, en énergie, provisionnées en énergie solaire. Donc il y a quand même de belles choses qui se font en Inde, mais c'est vrai que c'est pas la majeure partie des entreprises qui font ça.
Donc une Majdoulins Bahi, une évolution, on peut dire, y compris dans ces pays-là. En écoutant Clément Molavé, Damien Pelé, on peut se dire, est-ce que changer la mode, finalement, c'est une ambition qui est de plus en plus partagée ou on est encore à la marge ?
C'est difficile de mesurer parce que le vrai indicateur qui serait le plus intéressant, c'est de savoir précisément le volume de l'offre en prêt-à-porter, en habillement, qui peut être considéré comme éco-responsable. Et comme il n'existe pas un label unique ou une nomenclature unique pour dire ce qui est responsable et ce qui ne l'est pas, c'est un peu compliqué. On estime, l'Institut français de la mode l'an dernier estimait que ça représentait à peu près 8% de l'offre. Et donc on reste quand même un peu, si vraiment on regarde le volume du marché, un peu à la marge. Maintenant, ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est que la première chose, il y a un souci de mesurer. Parce que jusqu'à une période récente, finalement, on a des données macro qu'on a citées sur les pollutions mondiales. On a quelques données par-ci, par-là, mais pour chaque entreprise, pour chaque marque, de pouvoir mesurer effectivement l'impact de ces produits, c'est déterminant pour progresser. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, en rapprochant le lieu de fabrication du lieu de production, on facilite aussi l'accès à l'information pour le consommateur, et y compris pour le producteur, puisque jusqu'à une période récente, et d'ailleurs c'est ce qu'avait révélé le Rana Plaza, comme on a séparé la distribution de la production, des entreprises qui étaient des marques et des enseignes qui distribuaient des vêtements, parfois sous-traitées à des entreprises et finalement étaient incapables de savoir, puisqu'il y avait de la sous-traitance, ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade, c'est-à-dire d'autres sous-traitants, et étaient incapables de renseigner précisément sur où a été fait le produit, dans quelles conditions. La seule chose qui devait légalement être déclarée, c'était la composition du produit, les fibres qui le composaient. Donc tout ceci, disons que cette conjonction d'évolution font qu'on peut commencer à avoir des frémissements, voire des confirmations pour des marques qui ont du succès, mais en volume du marché aujourd'hui, on n'est pas encore dans une nouvelle norme. Par contre, ce qui émerge et qui ne doit pas être regardé comme un sous-marché, mais maintenant vraiment un vrai marché, c'est la seconde main. Alors, sur 150 milliards de chiffre d'affaires du secteur de l'habillement en France, on est à 1 milliard. On était à 1 milliard il y a un an. Il faudrait que je regarde les derniers chiffres. Mais en plus, il y a tout le secteur informel de la seconde main, donc c'est considérable. Et de plus en plus, les Français ont adopté cette norme d'acheter moins de vêtements neufs, ça a été dit, mais plus de vêtements aussi de seconde main. Et ça, c'est une vraie évolution structurante dans la façon dont on s'habille. Et je pense qu'il y a d'autres modèles aussi qui vont se développer, comme la location, etc., de vêtements, et qui vont finalement... Parce que l'enjeu, c'est pas simplement de produire très bien, ça a été dit également, c'est de produire moins, mais mieux. Et donc, c'est produire à la demande, mais c'est aussi, en volume, réduire le gaspillage.
Alors ce marché de la seconde main, Damien Pelé, c'est un développement effectivement en pleine ébullition. Hein. L'achat vintage, le marché de la mode seconde main, recyclerie, vide-grenier, la fripe devient chic même. Et probablement que la fripe du luxe va devenir extrêmement chic aussi, mais toujours pour un budget quand même qui n'est pas celui de tous les foyers. On voit la mise en place de boutiques spécifiques de la part des grandes marques pour capter cette clientèle et ne pas donc se faire déborder, parce que là aussi c'est un marché qui leur échappe, et y compris donc dans votre groupe.
Oui, tout à fait. C'est la seconde main, je partage l'avis de Majdoulins, c'est probablement à l'heure actuelle, en tout cas, le comportement de consommation dans la mode, de mode responsable le plus établi. Enfin, le premier, c'est moins consommer. Mais quand vous écoutez les gens, la première chose qu'ils vous disent, c'est oui, je consomme moins et ensuite je consomme de la seconde main. Et on voit qu'effectivement, à l'heure actuelle, ce marché, qui a une croissance exponentielle, hein, aux États-Unis, des prévisions parlent qu'en 2030, ce marché serait supérieur à celui des grands magasins et de la fast fashion. Hein, donc on parle quand même d'une tendance de fond extrêmement lourde. À l'heure actuelle, ce marché passe par des plateformes bien connues, et c'est vrai, ne passe pas entre les mains des acteurs traditionnels. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que c'est extrêmement récent. Hein. Il y a encore 5 ans, c'était une minorité de gens qui allaient en seconde main ou pour des motifs vraiment idéologiques assez rares, mais aussi pour des motifs économiques. Et ça reste le principal driver de la seconde main, ne nous trompons pas. Mais c'est quand même intéressant de voir que 45% des gens indiquent clairement qu'ils vont acheter de la seconde main pour des motifs aussi de responsabilité. Là, ce qu'on voit depuis cette année, c'est assez récent, c'est effectivement maintenant des marques qui essaient, des marques de première main, des marques qui vendent des produits neufs, qui essaient de réintégrer ce marché, et donc les initiatives foisonnent. Et notamment, par exemple, dans le secteur du luxe, l'exemple qui me semble le plus récent et le plus parlant, c'est celui de la marque Weston. Comme son nom ne l'indique pas, Weston produit en France des chaussures pour hommes de grande qualité et bien sûr quand même à un prix assez significatif. Weston a vu pendant tout un temps passer ses chaussures en vente sur différentes plateformes et s'est dit mais finalement pourquoi moi je n'internaliserai pas ce service. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Weston ? Ils ont proposé à leurs clients maintenant de racheter des vieilles Weston, ils les ramènent dans leur usine qui est située en France, ils les remettent en forme, les retravaillent et les vendent. Et finalement, ils apportent une vraie valeur ajoutée parce qu'ils apportent au client la valeur ajoutée que l'authenticité du produit. Là, le client est sûr que c'est une vraie Weston. Elle est repassée à l'usine. Donc quand même, on lui a redonné une forme, on lui a redonné des couleurs, on l'a réhygiénisée aussi. Et de plus en plus de marques commencent à comprendre que la seconde main n'est pas l'ennemi de la première main. Car finalement, c'est assez frappant de voir notamment les jeunes générations, quand ils achètent quelque chose, ils sont beaucoup déjà en train de se dire à combien ils vont le revendre aussi. Et donc finalement, ce marché de la seconde main, on pourrait penser qu'une de ses conséquences vertueuses sera d'aider les marques qui vendent de la première main de qualité, qui dure dans le temps, à se développer, puisque les acheteurs de ces marques se diront peut-être « Ok, ça coûte peut-être plus cher, mais c'est de grande qualité, ça a de la valeur sur le marché de la seconde main, donc en fait, je peux passer à l'acte d'achat. » Et donc, on passe d'une dualité à de plus en plus des collaborations. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un mouvement des marques pour récupérer ce marché.
En tout cas, on le comprend, être plus vertueux, c'est aussi accepter donc de moins produire, et pour les consommateurs, de payer plus cher des produits, c'est-à-dire donc réparer, faire tenir dans le temps, acheter moins, mais mieux. Et cette problématique, eh bien, on a compris qu'elle intéressait aussi le monde politique en lien avec ce monde du luxe. Écoutez ce reportage qui a été diffusé sur France 2 le 23 août 2019 à l'occasion du G7 à Biarritz.
C'est une alliance historique. 30 groupes de luxe et de prêt-à-porter qui signent le même engagement pour moins polluer. C'est le Fashion Pact, un texte remis à l'Élysée aujourd'hui. À la manœuvre, François-Henri Pinault, leader d'un des géants de l'industrie du luxe. Trois promesses: se mobiliser en faveur du climat, de la biodiversité et des océans. Les objectifs sont ambitieux. Atteindre d'ici 2030 ou 2050 0% d'émissions de CO2. Obtenir zéro plastique à usage unique. Parvenir à 100% d'énergie renouvelable dans le circuit d'approvisionnement. Un acte fort pour l'industrie de la mode, mais pas vraiment pour les associations environnementales.
Donc ce Fashion Pact, c'est clairement une opération de communication pour verdir l'image d'une industrie qui aujourd'hui a un impact environnemental très fort. C'est un quart des émissions de CO2, quasiment.
Pour François-Henri Pinault, impossible d'imposer des règles communes aux entreprises signataires.
Les entreprises sont très différentes et donc on peut pas appliquer une seule formule à tout le monde. Il y a un véritable engagement de ces entreprises. Elles n'étaient pas obligées de le faire du tout. Il n'y avait pas de publicité négative pour celles qui ne souhaitaient pas le faire.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Clément Molavé, je me tourne vers vous parce que donc vous êtes de Biarritz et à cette occasion donc vous avez vécu ce moment-là et vous avez même tenté d'interpeller notre président Emmanuel Macron par un message 44 mètres pour changer le monde.
Ouais, parce qu'on a nos bureaux juste en face de l'hôtel du Palais de Biarritz, donc c'était assez proche. Et en fait, ce matin, en allant au bureau, on s'est dit ah mais c'est incroyable comment on est près géographiquement de toutes ces décisions et en fait comment on en est loin. Parce qu'on n'est absolument pas sollicité ni impliqué, concerné. Par rapport à ce pacte, alors nous on trouvait ça, ça nous a fait doucement rire, mais rire un petit peu jeune, puisqu'en fait les décisions qui sont annoncées dedans sont prévues à des horizons très 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 lointains, alors qu'on estime que ces grosses entreprises qui ont de gros moyens ont d'autant plus de responsabilités que des petites entreprises qui ont des petits moyens. Donc on voulait interpeller le président et le G7 sur ses responsabilités à prendre. Et en fait, donc le premier jour du G7, on s'est dit, bon, il faut qu'on interpelle sur quelles vont être les solutions apportées. On demande voilà beaucoup d'engagement sur les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux liés à la mode. Le deuxième jour, on a un petit peu digéré cette première journée. Et on s'est dit, bon, c'est bien de mettre le doigt un petit peu sur des sujets sensibles, mais il faut qu'on apporte aussi une solution. Et en fait, on s'est dit, bon, ben nous, chez Opal, à notre petite échelle, on est capable de faire des fringues à peu près pas mal, qui ne détraquent pas trop l'environnement, avec des partenaires français. Donc on s'est dit, bon ben, de manière un petit peu naïve et innocente, on va partager la liste de nos fabricants aux acteurs du G7 en se disant peut-être potentiellement ça pourrait intéresser certaines marques. C'est fait de manière innocente puisqu'on se doute bien que demain un Kering qui voudrait savoir avec qui on travaille, il pourrait le trouver très facilement. Mais on se dit, mais si jamais c'est si facile pour eux de trouver ses partenaires, pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas avec eux? Et utiliser des matières recyclées, c'est pas compliqué. Utiliser des matières bio, c'est pas compliqué. Travailler en France, c'est pas compliqué. Donc quand on prend le Fashion Pact et qu'on le lit, et je me rappelle plus quelle est la tournure exacte, mais je crois que dès la première ou deuxième page, j'ai écrit ce pacte n'a pas pour intention de réinventer la roue. Ah!
Et il n'y a pas d'aspect contraignant, hein, d'ailleurs, dans le pacte. Hein.
Ah non, en fait, ouais. Très vite, il y a deux,
c'est
trois
volontariats,
formules.
Ce sont les bonnes intentions. Damien Pelé, une réaction, parce que c'est vrai que ça a fait l'objet de différents reportages, bien sûr, couler un peu d'encre aussi, et à 44 mètres, il y avait donc cette boutique Opale, et avec un exemple, comme disait Clément Molavé, la possibilité de faire, c'est pas très compliqué. Il y a quand même, il faut le dire, hein, pour les auditeurs, il y a une guerre des grands groupes, il faut bien l'avouer. Kering, Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, donc de François-Henri Pinault, avec 32 groupes internationaux et 150 marques connues, contre LVMH de Bernard Arnault. Enfin, on sent que dans ce monde-là, l'enjeu environnemental n'est pas forcément la préoccupation peut-être première. Rappelons aussi que ce monde de la mode, qui ne renonce pas au capitalisme ou à la mondialisation, hein, c'est quand même 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le monde de la mode. Donc, voilà. Et en même temps, oui, peut-être qu'il y aurait moyen d'investir dans la recherche de solutions pour la planète.
Alors déjà, sur le Fashion Pact, nous, on est signataires. Hein, le groupe Galeries Lafayette, on a été parmi les premiers signataires. J'ai été personnellement assez surpris des remarques que j'ai pu entendre ou des articles. Rappelons quand même les faits. François-Henri Pinault, en avril, se dit, bon, bah voilà, commandité par le président Macron, il faudrait que nous ayons un pacte à l'horizon du mois d'août. Je ne sais pas si vous imaginez le délai, donc on parle de 4-5 mois, pour aligner 30% des entreprises allant de Kiabi à Adidas en passant par Kering ou les Galeries Lafayette sur déjà un certain nombre d'engagements communs. Est-ce que vous trouvez que les États ou même au niveau européen, on est capable ne serait-ce que sur ça, et je suis d'accord que c'est pas encore grand-chose, est-ce qu'on est capable de s'aligner en Europe ou à l'ONU sur ce type d'engagement? Donc déjà, je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même, moi, je leur tire mon chapeau. Et surtout, ce qui a été, je pense, très mal compris, c'est que le Fashion Pact n'est pas une fin en soi à l'heure actuelle. On se parle très régulièrement entre signataires pour mettre en place des plans d'action, en fait, qui vont être à échéance de moins de 5 ans. Le Fashion Pact était le début de quelque chose. Et là, maintenant, on est en ordre de marche pour prendre des actions. Et vraiment, très concrètement, on va le faire. Après, bien sûr, il faudra juger, mais quand même, je pense qu'il faut rappeler ça. Après, que ce sujet devienne un sujet de concurrentiel, de compétition, ça a des côtés négatifs, mais ça a aussi un côté positif, c'est que ça devient du coup un sujet important pour ces entreprises. Donc si c'est un sujet important, ça veut aussi dire qu'elles vont y consacrer des moyens et qu'elles vont accélérer. Donc l'un dans l'autre, peut-être que ça peut finalement générer des retombées positives. Et dans tous les cas, j'échange pas mal avec les marques. Il y a beaucoup de marques en France qui se créent sur ces sujets de mode responsable et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais si jamais ces gros acteurs ne s'engagent pas fortement dans les 10 ans qui viennent, la partie est perdue. Donc de toute façon, on ne peut que souhaiter qu'ils bougent. Et malgré tout, un communiqué de presse qui m'a quand même interpellé et j'ai aucun lien avec eux. Adidas a annoncé que pour la première fois donc de son histoire, 50% du plastique qu'il a utilisé pour fabriquer ses chaussures est en plastique recyclé. Bah quand même, honnêtement, je dis chapeau parce qu'ils sont passés de 5% à 50% en 3 ans. Quand vous voyez que c'est une entreprise qui fait 100 millions de paires par an, ça peut vraiment avoir un impact pour le coup sur l'environnement extrêmement significatif.
Majdouline Zbahi, votre opinion sur ben voilà, cette évolution, quelles que soient finalement les intentions, hein.
La première chose, c'est que effectivement, il y a un rôle important, je pense, des entreprises de luxe parce qu'elles ont un pouvoir d'influence considérable sur l'ensemble du marché. Elles influencent les tendances, mais elles influencent aussi ce qui est considéré comme désirable, notamment pour des gens qui aiment la mode et qui consomment beaucoup de produits de mode. Et cette désirabilité de changer et d'avoir des pratiques plus responsables de consommation, elle est capable de le passer au travers de ces messages marketing. Quand une star décide de communiquer sur le fait qu'elle remet 30 fois la la même robe de soirée. C'est une façon de montrer que finalement, ce changement permanent, c'est plus ce qui est tendance par rapport à la finitude de nos ressources planétaires. La deuxième chose, c'est qu'elle a des capacités d'investissement beaucoup très importantes. On a rappelé les chiffres d'affaires. Dans l'industrie du luxe, on a beaucoup de marge, beaucoup de capacités à investir. Il faut investir dans les matières premières pour faire en sorte de privilégier celles qui sont les moins polluantes et celles qui vont nous permettre de restaurer et réparer notre environnement. Quand Courrèges décide de supprimer le plastique et d'innover, par exemple, en utilisant du plastique d'algues, on a là toute une recherche et développement qui est assumée par une entreprise ou quand d'autres le font, hein, même des plus petites. Mais elles peuvent finalement mettre à disposition du marché ces innovations en termes de matière. Et sans parler d'innovation, d'ailleurs, dans le reportage de France 2 que vous avez diffusé, j'étais intervenue également juste après le président de VVF pour dire le lin, le chanvre, l'ortie, toutes ces matières qui sont cultivables localement peuvent devenir finalement les nouvelles matières qui redeviennent majoritaires dans le prêt-à-porter. Et une toute dernière chose, c'est que il faut, dans le Fashion Pact, aujourd'hui, on ne dit pas moins, mais mieux. On dit on va faire mieux. Et moi, je crois beaucoup à ce moins quand même. Je crois que, je l'ai dit, le problème, c'est aussi la surproduction, la surabondance. Ça n'est pas que bien faire. Et donc, par exemple, un des sujets, c'est d'arrêter la frénésie des défilés, du réassort permanent. Et donc, il faut accepter de revenir à une sobriété tout en gardant ce côté créatif, artistique que peut proposer le prêt-à-porter, l'habillement et la mode.
Clément Moulavé, moins mais mieux, hein, c'est ce qui vous rejoint aussi, ce qui vous rassemble tous les deux dans cette façon de considérer la mode de demain. Alors, à ce stade de l'émission, je me tourne vers vous pour que vous nous fassiez partager votre choix musical.
Ah là là, c'est Paula Ronyon.
Il y a une raison particulière ?
Au bureau, on écoute tout le temps de la musique. Je me suis dit, bon, une petite musique un peu détente, avec une ambiance surf, ce sera très bien.
Donc l'ambiance de Opal.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Bien sûr, notre émission de cause à effet sur France Culture consacrée au secteur du luxe et de la mode. Comment le secteur du luxe et de la mode fait-il son éco-révolution? Pourquoi se drape-t-il du label vert? Thème du jour en cette fin de semaine de la mode et dans le cadre de notre rendez-vous mensuel hashtag Sauver le présent qui rassemble France Culture, Le Parisien, Combini News et Ouzbek Erika. Et toujours avec nous, Damien Pellet, directeur développement durable des Galeries Lafayette et du BHV Marais, impliqué dans le mouvement Go for Good. Majdouline Zbahi, sociologue, organisatrice des Fashion Green Days, et Clément Moulavé, cofondateur de la marque Opal, cette marque qui conçoit des vêtements réalisés à partir de matières recyclées. Nous étions en train de réagir juste avant votre choix musical sur le Fashion Pact, sur ce monde, sur la recherche aussi, hein, l'argent à investir probablement dans ce secteur de la recherche. On peut préciser aussi que c'est un monde sous la surveillance des réseaux sociaux. Chanel en a fait les frais. Et elle s'était vue la maison épinglée après avoir fait abattre des chênes et des peupliers, hein, dans le Perche pour composer un décor de défilé de 10 minutes, c'était en 2018. Et Burberry également, qui a brûlé quelques 31 millions d'euros d'invendus en un an, mais la marque a depuis renoncé à cette pratique. Majdouline Zbahi, il y a aussi cette surveillance des réseaux sociaux qui joue son rôle.
Oui, aujourd'hui, il y a une vraie réactivité des réseaux sociaux. L'information, elle est multicanale. Donc, en fait, une marque ou une entreprise qui rend public au travers d'un défilé une pratique peut très vite voir sa communication complètement dérapée. Mais là, dans les cas qu'on cite, par exemple, c'est vrai que l'industrie du luxe, la mode, a quand même un rôle sociétal, un rôle, je dirais, au sens noble du terme politique, d'être le témoin d'une époque. Et notre époque, c'est l'époque d'une crise planétaire inédite. Et donc, avoir cette pratique même pour des raisons esthétiques, à un moment donné, même si évidemment, c'est pas ça qui va résoudre le problème de la déforestation dans le monde, mais ça passe un message de non prise en compte de cette situation qui est délétère. Et finalement, derrière la beauté des vêtements, derrière les savoir-faire qui sont promus au travers de ces vêtements, on a le témoignage d'une forme d'inconscience. Et moi, je crois que c'est ce rôle-là, dont les maisons de luxe, mais pas seulement, hein, tous ceux qui aujourd'hui passent un message public, elles doivent vraiment être en responsabilité. Ça commence par là, être rechercher cette intégrité dans le message, rechercher à être à la hauteur des enjeux auxquels on a à faire face collectivement, et ensuite le décliner dans les pratiques commerciales, dans les produits, très très concrètement et assez vite, parce que on n'a pas le temps non plus d'attendre que ça s'implémente pendant des années. On voit bien que jour après jour, on a des signaux qui nous montrent que nous devons réparer notre écosystème pour pouvoir collectivement survivre.
Est-ce qu'en dehors de petites maisons, de start-up à l'image de Opal, de Royal Mer, par exemple, des grandes maisons de prêt-à-porter, de luxe, sont plus vertueuses que d'autres ? Est-ce que certaines, on peut vraiment leur donner un label vert ?
Moi, je ne m'aventurerai pas du tout là-dedans, parce que je pense que mais c'est vrai, c'est vraiment pas un exercice qui est souhaitable. Je pense que il faut regarder chacun comment il communique sur la façon dont il produit, où c'est produit, dans quelles conditions, avec quelle matière. Et cette information minimale, c'est celle dont on devrait tous disposer pour pouvoir choisir nos vêtements. Il y a une application qui est déjà téléchargeable, qui s'appelle Clear Fashion, qui permet d'avoir quelques informations déjà pour des marques et des produits. Aujourd'hui, cette exigence d'information, elle doit s'accroître. Mais moi, je pense qu'on n'est plus à l'ère de « je fais un peu mieux ». On est à l'ère de « j'ai une mission ». Toute activité humaine, je dirais pas simplement la mode, elle devrait vraiment orienter sa mission vers cet enjeu-là considérable qui est de réparer les dégâts qu'on a pu faire. Et moi, je pense que l'industrie de la mode pourrait presque devenir pionnière, parce que, comme je l'ai dit, c'est une industrie qui inspire, c'est une industrie qui porte des messages. Dans le passé, par exemple, si on prend l'émancipation des femmes, l'industrie de la mode où le vêtement a joué un rôle considérable, l'évolution du vêtement a permis aussi, grâce à la démocratisation du prêt-à-porter, c'est aussi, ça a aussi un facteur de mixité sociale, de pouvoir s'habiller comme on veut et de pouvoir finalement choisir des vêtements qui nous permettent de ne pas être assignés socialement dans la société. Aujourd'hui, l'enjeu, il est environnemental. Et donc, le rôle de la mode, si elle veut être d'avant-garde, c'est vraiment celui d'accompagner cette transformation matière, produit, façon dont je vends, innover dans les modes de relation avec les clients, recréer des liens de confiance et redonner de la valeur aux vêtements, parce que les vêtements, c'est des dizaines d'étapes avant d'être... pour la fabrication d'un vêtement, il faut des dizaines d'étapes. Ça a une vraie valeur. Aujourd'hui, on a complètement perdu cette notion. Pour le prix d'un sandwich, on achète un vêtement, ça n'est pas souhaitable. C'est pour ça que cette collaboration, par contre, entre les entreprises, elle est déterminante, parce que c'est tout le marché qui doit évoluer conjointement. Et moi, je pense que les consommateurs, en fait, on peut pas leur dire un tel c'est bien, un tel c'est pas bien. C'est plutôt une autre approche de la façon dont on consomme des produits de mode et d'habillement.
Clément Molavé, dans ce monde-là, justement, est-ce que vous sentez plutôt complémentaire, collaborateur de toutes ces maisons, ou vous avez le sentiment que les jeunes créateurs éco-responsables sont presque les nouveaux concurrents des maisons de mode ?
En fait, moi, on se positionne pas en tant que concurrent. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous, on fait le maximum au quotidien sur toutes les étapes. Donc, sur les matières recyclées, sur cerner le besoin des clients, sur les packagings, on utilise des packagings réutilisables. On se positionne pas en tant que concurrent de toutes ces marques, que ce soit les grands groupes de luxe, les petites marques qui se lancent. Comme je disais, on partage tous nos fabricants. On est prêt à mettre en relation les fabricants avec lesquels on travaille, avec des grands groupes, avec des petites marques qui se lancent. Puisqu'en fait, on sait que si on travaille avec les bonnes personnes, en fait, ça va développer les bons écosystèmes. Et in fine, tout le monde en bénéficiera. Que ce
Donc
soit...
vous êtes prêt à partager, en fait. Ah, prêt à partager ce modèle.
Mais oui, je veux dire, le marché, il est immense. Mmh. Opal, on est minuscule.
Vous êtes combien ?
Chez Opal ?
Oui.
On est 6. on est une petite entreprise, mais on peut faire beaucoup de choses.
Et à l'équilibre ou pas ?
Financièrement parlant.
Oui.
On a toujours été rentable, mais parce qu'on a une gestion ultra prudente de la trésorerie. On travaille beaucoup avec notre communauté. On travaille beaucoup avec nos fabricants, en fait. On presse pas nos fabricants comme des citrons, quoi. On prend le temps de leur expliquer ce qu'on a envie de faire. On leur explique notre démarche. Et en fait, qu'on explique notre démarche, les gens, ils l'entendent et ils réagissent souvent positivement. Là, on sort un projet un peu particulier, la semaine prochaine, qui est le fruit d'une grosse collaboration avec tous nos fabricants partenaires, parce qu'on va sortir un t-shirt recyclé fabriqué en France, vendu à prix coûtant, pour lequel tous les partenaires, à toutes les étapes de la chaîne de fabrication d'un t-shirt, qui n'est donc pas anodine, puisqu'il faut tisser, faut tricoter, faut faire les étiquettes, faut découper, faut assembler, tout le monde ne couvre que ses frais de fonctionnement, pour justement proposer un t-shirt sain, socialement parlant et environnementalement parlant, à un prix abordable.
Et c'est quoi le prix coûtant ?
Là, on va le sortir à 20 euros hors taxe, donc 24 euros TTC pour le client. Alors qu'aujourd'hui, à date, chez Opal, nos t-shirts sortent à 45 euros. Et on sait qu'entre un t-shirt à 45 euros et un t-shirt de la fast fashion, eh ben, il y a quand même pas mal de gens qui ne peuvent pas forcément se le payer. Donc, on a une approche qui est globale et... Le jour où Opal mettra la clé sous la porte parce que, je sais pas, le marché aura été inondé d'entreprises qui font les choses bien ou mieux que nous. Mais alors, mais très bien. Mais je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à parcourir. On n'est pas précurseur, mais il y a encore pas mal de choses qu'on fait que d'autres entreprises pourraient faire.
Damien Pelé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, le principe des soldes, le Black Friday, ça a vécu tout ça ?
Le Black Friday, déjà, ce qu'on a constaté cette année, c'est que, en fait, ça a été clairement une anticipation des achats de Noël et des soldes. Et qu'en vrai, revenons quand même au fait, hein, c'est moins 15% de marché, je rappelle, en France. Donc, en fait, ça n'a pas été un sursaut de consommation. Après, il est vrai que ces périodes-là auront probablement tendance déjà à se réduire dans le temps. Et il est souhaitable, je pense, pour tout le monde, de remettre un vrai prix sur ces vêtements qui, comme le disait Madjouline, en fait ont une belle histoire et une longue histoire. Je pense que c'est un chemin à suivre et de plus en plus d'ailleurs, pour rebondir sur les petites marques versus les grandes, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que certaines initiatives de petites marques sont reprises par des grosses. La première, la liste des fournisseurs. Il y a une initiative qui s'appelle Transparency Pledge, qui incite, c'est une ONG qui incite les grandes marques à publier leur liste d'usines. Je comptais, il y avait 100 grandes marques qui l'ont fait. C'est récent, ça n'a que 2 ans. La transparence sur les prix. La première marque qu'il a fait, c'était Everlane aux États-Unis, qui publiait « Voilà mes coûts de production, voilà combien je vous le vends, voilà ma marge ». Cette semaine, je passe devant une vitrine de Maison 123 et je vois payer ce que cela nous coûte, avec exactement le même principe. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a vraiment des vases communicants et que toute cette jeune création, ces jeunes marques super innovantes, bousculent les codes et inspirent les marques plus grandes.
Il y a un site avec les labels pour que au moins le public puisse se repérer aussi, parce qu'on imagine qu'il peut y avoir une jungle des labels.
Ah bah, nous, c'est clairement l'optique de Go for Good, si vous voulez, ça a été vraiment de se dire, il y a une jungle des labels, on prétend pas qu'un produit Go for Good est parfait, parce que qu'est-ce qui est parfait? S'il est en coton bio et qu'il est pas en France, il y aura toujours un débat. Est-ce que socialement, il a été fait par des personnes en insertion, etc., etc. En tout cas, nous, on a répertorié vraiment, et d'ailleurs, c'est public sur le site goforgood.galafel.com, tous nos labels sont publics. On a retenu, que des choses scientifiquement prouvées, un bénéfice social, environnemental, ou béni de France, scientifiquement prouvé. Et je pense que, honnêtement, ça répertorie vraiment ça fait un bon état de l'art. Et à l'heure actuelle, 8% des marques, 8% des produits qu'on vend chez nous sont capables d'y répondre, ce qui prouve qu'il n'est pas facile à atteindre. Mais dans tous les cas, on a voulu remplir un vide. Et moi, j'appelle clairement à un système international, européen, de notation parfaitement indépendant sur les impacts environnementaux et sociaux. Et ce jour-là, il n'y aura plus besoin d'avoir Go for Good.
Merci à tous les trois. Et pour les labels, je crois qu'on peut aussi retrouver cette liste-là dans le livre de Majdouline Zbahi, Une mode éthique est-elle possible ? Livre édité chez Rue de l'Échiquier. Et on mettra bien sûr tous les liens utiles, nécessaires pour nos auditeurs sur le site. Vous restez avec nous tout de suite, seconde partie de notre émission avec tout d'abord l'œil du monde planète.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Direction la rédaction des pages planète du journal Le Monde, notre partenaire média est dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Aujourd'hui, Audrey Garic est notre œil du monde planète. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors votre choix s'est porté sur l'annonce faite par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, concernant la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone. Un cap connu, mais visiblement la trajectoire reste hasardeuse.
Oui, le gouvernement a mis en consultation publique lundi pour un mois les deux outils de pilotage de la politique climatique et énergétique du pays. C'est ce qu'on appelle d'une part la stratégie nationale bas carbone qui fixe en fait les émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Et l'autre outil, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui dit quelle doit être la politique énergétique de la France. Par exemple, là, elle prévoit de développer les renouvelables ou de fermer 12 réacteurs. Et en fait, ces deux feuilles de route, elles vont ensuite être adoptées par décret après la consultation. Grâce à ces deux feuilles de route, en fait, la France vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça signifie qu'elle ne pourra pas produire plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle n'en absorbe, que ce soit par les puits de carbone naturels comme les forêts ou les prairies ou par certains procédés industriels comme le captage stockage du CO2. Et pour parvenir à cette neutralité carbone, En fait, il y a ce qu'on appelle des budgets carbone qui sont fixés. C'est dans, bon, c'est un jargon, mais ça veut dire que c'est des plafonds d'émissions à ne pas dépasser, à la fois à l'échelle nationale et aussi pour chaque secteur, comme les transports, le bâtiment ou l'agriculture. Et en fait, pour l'instant, la France n'est pas sur les rails dans aucun des secteurs et non plus à l'échelle nationale. Le rythme n'est suffisant pour atteindre ce que Elisabeth Borne appelle de ses voeux, c'est-à-dire une transformation globale de la société.
Donc vous développez point par point toutes ces informations dans votre article écrit avec Nabil Wakim. Concrètement, on comprend que la France va s'autoriser à émettre plus de gaz à effet de serre sur un court terme pour être vertueuse à long terme.
C'est exactement ça. Comme en fait la France a pas respecté les premiers budgets carbone de sa stratégie nationale bas carbone, en fait elle a dépassé ses budgets, elle a émis plus de gaz à effet de serre et en fait les prévisions pour la suite montrent qu'elle risque ou qu'elle va à nouveau en émettre plus pour la prochaine période qui est 2019-2023. Et du coup, la France, en fait, a révisé à la hausse ses budgets carbone. Donc, effectivement, elle s'autorise à émettre davantage à court terme et après à devoir rattraper le retard, ce qui est plus compliqué. Parce que faut quand même rappeler que les émissions, en fait, elles ont baissé de 20% quasiment depuis 90, mais que le rythme de baisse n'est pas assez rapide. Là, sur la dernière période, on était de 1% de baisse par an, en moyenne, alors qu'on devrait être deux fois plus rapide que ça. Donc, c'est pour ça que la France... change un peu, révise sa stratégie nationale bas carbone pour la période qui arrive.
Et on comprend bien que ce choix va à l'encontre des recommandations, notamment du Haut Conseil pour le climat. C'est à découvrir pour nos auditeurs, Audrey Garic. Merci à vous, à découvrir dans votre article sur lemonde.fr. Et puis j'en profite aussi dans ces annonces pour vous annoncer que le prix littéraire François Sommer, qui salue un ouvrage qui explore d'une façon originale et sensible la question des relations de l'homme à la nature et interpelle sur les enjeux écologiques contemporains, eh bien ce prix a été décerné à l'anthropologue Nastassia Martin pour son livre « Croire aux fauves » édité chez Vertical. Et toutes les informations, bien sûr, seront sur le site de l'émission également. À suivre, dernier rendez-vous, l'Escale verte.
On voyage vers le nord, me conduit sur une nouvelle zone habitée par une meute de loups. Contrairement aux idées reçues, là où il y a des loups, il y a beaucoup de gibier, beaucoup d'ongulés sauvages. Comment croire encore à cette idée que le loup élimine le gibier? Quand on voit les dégâts occasionnés par les hommes sur la nature, comment peut-on imaginer un instant que le loup est responsable de la disparition de certaines espèces? Alors qu'au contraire, sur son territoire, l'équilibre est préservé. Il en va de la survie des loups. Plus de gibier, plus rien à manger. Mais pour un jeune loup, gibier ou pas, pas facile de se nourrir, car la force du loup, c'est le gros.
Et chaque semaine dans l'Escale verte, nous explorons des territoires, des écosystèmes, des initiatives en France, en Europe ou ailleurs dans le monde avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Et aujourd'hui, direction les Alpes et le Jura sur les traces de jeunes loups. Bonjour Jean-Michel Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur, scénariste, réalisateur de films et vous nous aviez déjà immergé dans la vallée des loups en 2017. Et vous revenez avec ce film documentaire « Marche avec les loups », un film très intimiste entre vous et les jeunes loups. Et on sent que vous êtes animé par une quête spécifique. Alors dites-nous, après quoi vous couriez dès le début de cette entreprise?
Désolé, déjà j'ai une extinction de voix un peu, mais j'espère que ça va aller.
Ça va aller.
Et en fait, moi j'ai toujours eu cette passion du loup. Et j'avais eu cette expérience incroyable de passer 3 ans en immersion avec le film précédent, « La vallée des loups ». Et je trouvais que quelque part, ce film... Il m'était peut-être incomplet parce qu'en fait, les loups ne supportent pas d'être trop nombreux sur les mêmes territoires, vu que ce sont de grands prédateurs, et qu'ils veulent toujours, il y a toujours ces phénomènes de dispersion et de jeunes qui quittent les territoires. Et je trouvais que pour être vraiment complet, c'était beaucoup plus intéressant aussi de suivre un de ces jeunes loups dans cette dispersion.
Concrètement aujourd'hui, combien de loups en France? On parle de 500 à peu près.
Ouais, 550. Mais en fait, ouais, ce que j'essaie d'expliquer vraiment, c'est que le premier ennemi du loup, surtout sur un phénomène de dispersion comme celui-ci, ce sont vraiment les autres loups. C'est-à-dire que c'est une période finalement de sa vie qui est charnière entre le cocon, on va dire, de la meute, de la famille, et le moment où on serait installé sur un nouveau territoire. Donc là, évidemment, il y a toute cette période aléatoire, et en plus c'est une période complètement étonnante parce qu'ils sont confrontés d'une part aux autres loups, confrontés évidemment aux humains, et à l'aléatoire de trouver un territoire éventuellement disponible et un compagnon, une compagne avec qui s'installer.
Alors on sent que vous le suivez hein, pas à pas, en tout cas vous suivez de jeunes loups isolés, solitaires, pour mieux comprendre comment ils se comportent, comment ils se déplacent, vers quel territoire ils partent pour coloniser eux aussi et potentiellement créer leur propre meute. C'est un film que je disais au début très intimiste et en même temps, on imagine que vous aviez une équipe de tournage et des techniques spécifiques pour nous rendre ces images-là. Donc notamment des caméras positionnées un petit peu partout et qui captaient les passages des loups, mais pas que d'ailleurs.
Oui, j'installe des caméras automatiques pour capter les mouvements des loups. Et en fait, l'équipe est super légère. C'est-à-dire que moi, je passe en gros aussi sur un mois de tournage. Je vais passer 3 semaines tout seul, vraiment à essayer de m'immerger, de filmer, de comprendre. Et puis, une semaine, je vais à Maria Méguet, qui est la directrice de la photo, et qui va venir me filmer en situation, remettre en scène des séquences que j'ai vécues et des choses comme ça. Il y a un ingénieur du son qui vient aussi, Boris Jolivet, qui vient me prendre du son une dizaine de jours tous les 2 mois. Mais vous voyez, on est en équipe ultra légère, et en fait, moi, je joue beaucoup sur le temps. Il me faut du temps pour m'immerger, pour m'imprégner, pour que l'histoire se raconte finalement. Cette histoire, elle se raconte au fil du temps, et là, ça a mis 2 ans. Et donc, on a oui, un système de cinéma qui est assez particulier, c'est-à-dire que on est au cinéma pour de vrai, on remet des choses en scène, mais on a besoin de cette immersion, et on est surtout au contact de vrais animaux sauvages. Et quand vous dites pas que les loups, justement, les caméras automatiques peuvent capter les loups, évidemment, on les capte aussi à la caméra normale, quand on a la chance de les voir. Mais il y a aussi tous les autres êtres qui partagent ces territoires, que ce soit d'autres animaux sauvages, et aussi les humains, parce que la nature n'est pas cloisonnée. Et ça, c'est super intéressant, je trouve.
Eh oui, on retrouve des lynx, des renards. Vous nous rappelez que 600 000 sont tués par an. Il y a des campagnols, des blaireaux. Et puis des hommes aussi qu'on voit passer comme ça. Ils ne savent pas forcément qu'ils sont filmés. Alors, c'est la petite question qu'on se pose en regardant votre film. Concrètement, Jean-Michel Bertrand, est-ce qu'il y a eu des scènes insolites, mais que vous n'avez pas mises dans le film?
Ben oui, il y a des scènes insolites avec des humains que j'ai pas mises dans le film parce qu'il faut préserver l'intimité des gens. Et moi, je voulais pas être le voyeur. Mais je me suis permis de mettre en scène quand même et de montrer certains passages humains, même des motards, des chasseurs, des amoureux, des promeneurs, tout simplement pour dire que la nature n'est pas cloisonnée. La nature, on se la partage tous. Et c'est un peu le questionnement de ce film. Le questionnement de ce film, c'est qui empiète sur le territoire de l'autre et sommes-nous prêts à partager les territoires. Donc, ces caméras automatiques qui sont un peu des yeux comme ça d'espions, nous racontent beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a une très grande poésie au travers de ces caméras.
On sent cette implication, comme vous le dites, de plus en plus importante, hein, des territoires sauvages et humains. Vous nous parlez de ce loup qui a été tué à l'entrée de Grenoble. Et notamment, cette semaine, hein, le loup a encore fait parler de lui, avec celui qui a été vu en Charente, à Gura. Et ce fut, il faut le rappeler, aussi le cas en Charente-Maritime en novembre dernier. Donc finalement, est-ce qu'il va falloir que l'homme s'habitue à voir peut-être plus facilement des loups à proximité des lieux urbains ?
Ah oui, moi je pense que de toute façon, le loup, tous les feux sont vraiment au vert pour que le loup reprenne possession de ses territoires. En fait, il y a eu la protection en Italie dans les années 1970, il y a eu l'exode rural, on a laissé la place. Il y a eu vraiment l'exode rural, il y a eu de vastes campagnes de reboisement aussi à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec le retour des ongulés sauvages. Et donc le loup, naturellement, qui est un animal qui a eu un pouvoir d'expansion incroyable, ben, retrouve ses territoires. Et c'est pas du tout étonnant de voir un loup en Charente aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il va y rester. autant dans une semaine, il sera à 300 km de là.
Est-ce que vous comprenez quand même la position d'éleveurs, de bergers qui s'élèvent contre la présence du loup? On sent, hein, ça reste bien sûr un sujet qui cristallise les colères.
Ah bien sûr, et ça j'en parle tout le temps, justement quand j'ai un compas de le film, à l'occasion des débats, je dis attention, attention, ne stigmatisez pas les éleveurs, les bergers, car en fait le retour du loup a complètement bouleversé leur vie, bien évidemment. Ils n'étaient plus du tout habitués à travailler avec la pression d'un prédateur opportuniste et intelligent. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la situation actuelle, on n'a pas vraiment le choix. Donc en fait, le fait de s'agiter et de crier « mort au loup, mort au loup », bon, mais ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en avant les gens qui acceptent cette présence, qui acceptent le partage des territoires. Et je dois vous dire, j'ai rencontré pas mal d'éleveurs et de bergers, soit en séance, soit sur le terrain, qui, avec les moyens de protection, les chiens de protection, les bergers, chez qui d'ailleurs, pour qui le métier a été complètement revalorisé, car ils sont à nouveau indispensables, eh bien ces gens-là arrivent à faire face. Donc je crois qu'il ne faut pas partir dans une idée, le loup contre les éleveurs, surtout pas. Et moi malheureusement, on me taxe de pro-loup anti-éleveur parce que je fais un film sur les loups, mais surtout pas. Moi je suis très très vigilant à ça, et j'essaie de faire la part des choses et de garder du discernement là-dedans, c'est essentiel. De garder un dialogue.
Les loups ont commencé à s'installer dans les Alpes par l'est et le sud. Je vais aller vers le nord. Rares sont les jeunes loups en dispersion qui arriveront vivants au bout du voyage. Ils sont très vulnérables dans un milieu urbanisé qu'ils ne connaissent pas. Les routes sont meurtrières. Ils ont du mal à chasser seuls et à trouver de la nourriture. Ils sont vulnérables, prennent des risques en s'approchant des troupeaux et des maisons. Ces incursions, avérées ou pas, déclenchent chez certains tensions et polémiques. Avec le retour du loup, la peur du sauvage ressurgit.
Et il faut rappeler aussi que les loups sont protégés par la Convention de Berne, hein, ce qui interdit les pays signataires de les tirer. Merci Jean-Michel Bertrand. Je renvoie bien évidemment nos auditeurs à votre film « Marche avec les loups », à votre film et au livre également que vous avez commis avec Bertrand Baudin. On y découvre de très belles photos de ce photographe, le livre édité chez Salamandre. Une ode à l'harmonie entre nous et les animaux sauvages, on peut dire.
On peut dire ça. Écoutez, il faut aller vers là. De toute façon, vu la situation actuelle de la planète, je crois que ce serait quand même dommage de se priver de tout ça.
Merci à vous. Et bien sûr, petit clin d'œil aussi, merci à la classe de seconde 1 du lycée international Latour à Paris, présent aujourd'hui dans nos studios. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur les sites de nos partenaires de la coalition hashtag Sauver le Présent. Téléchargement, réécoute à loisir et à disposition. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCA effet, ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, à l'approche des élections municipales, nous regarderons du côté des territoires en transition. Et nous serons notamment avec la journaliste environnementale Agnès Sinaï, avec Mathieu Riva et un spécialiste de Karma Gonès. Et dans un instant, vous restez bien sûr sur nos antennes. Les programmes de France Culture vous attendent avec Être et Savoir et Louise Touré.